Petite parenthèse quand même, nous avons été en tant que région mobilisés pendant un grand moment de la loi pour obtenir que ça ne soit pas le préfet qui organise ce type de choses, parce que dans les premières moutures, c'était les préfets de région et les collectivités n'étaient pas associés. Donc il y a eu une bagarre politique de l'ARF pour obtenir que ce soit les régions avec le préfet. On n'enlève rien à la puissance publique nationale, mais...
On va même revenir un peu en arrière, Jacques, si tu veux.
Pour vous dire comment la loi s'est faite aussi.
Voilà, avance. Pardon. Juste une diapo. Voilà. C'est bien la région qui, vous verrez qu'on va voir l'État réapparaître dans la conférence régionale un peu plus tard. Mais là, la région élabore avec la CRES la stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire. Donc on a bien l'affirmation du rôle de la région sur le sujet, et on voit qu'il y a une hiérarchie des collectivités. Dans l'emploi des termes, la région élabore, elle peut contractualiser avec les départements, les communes et les EPCI. Quand c'est écrit qu'elle peut contractualiser, ça veut dire qu'elle n'est pas obligée. Et vous voyez que sur ce point, il y a bien clairement, dans la loi, une hiérarchie de rôle des collectivités entre la région et les autres collectivités. Les PTCE, pôles territoriaux de coopération économique, sont dans la loi alors qu'ils existent déjà. Preuve, il y a eu un jury qui a sélectionné 23 projets au niveau national avant que la loi soit parue. Donc on le met dans la loi, là aussi pour le conforter, en faisant attention à ce que les pôles territoriaux de coopération économique qui sont nés un peu en réaction des acteurs de l'ESS en disant il y a beaucoup de moyens mis dans les pôles de compétitivité. Nous voulons avoir des moyens bien plus modestes pour pouvoir développer des actions de développement territorial fondées non pas sur la compétitivité, mais sur la coopération des acteurs. Vous voyez qu'il y a un peu de symbolique à travers cela, de la compétitivité à la coopération, mais que les pôles, ce qui est important, et la loi le reprécise, c'est que les pôles territoriaux de coopération économique sont d'abord un regroupement d'acteurs de l'ESS qui s'associent avec des entreprises du secteur classique, avec des collectivités, avec des universités, des centres de recherche, mais c'est bien des acteurs de l'ESS, et de ce point de vue, par rapport à vous, c'est relativement important parce que ça montre très clairement que les collectivités soutiennent ces pôles, mais ne sont pas elles-mêmes porteurs de ces pôles. Et ce qui, dans la culture de la relation des collectivités et des acteurs, mérite d'être mis en valeur, la collectivité a souvent tendance à faire elle-même. Là, dans les PTCE en général, et dans la relation avec l'ESS en général, c'est bien la collectivité n'a qu'un rôle de soutien, mais n'est pas directement acteur économique, et donc... C'est l'apprentissage, parfois pas facile dans la culture de collectivité, d'un mode de positionnement en soutien et non pas un mode de positionnement comme acteur. Ces pôles, on pourra y revenir, je crois que ça sera, vous aurez l'occasion d'en reparler. Ce qui est intéressant dans la phase sur la loi, c'est de voir cette mécanique de construction. Après, pour les projets, je pense que vous aurez l'occasion de le revoir au courant de la journée. La loi prévoit un schéma de l'obligation pour les collectivités de faire un schéma de promotion des achats publics responsables. Et donc là, on retrouve l'alliance entre les clauses environnementales et les clauses sociales. Il y a bien de ce point de vue une volonté affirmée à travers ce texte de passer d'opérations ponctuelles que réalisent de plus en plus de collectivités en termes d'achat à une cohérence d'ensemble d'une politique traduite dans un schéma. La première limite de cela, c'est donc que c'est une obligation de faire un schéma, mais une obligation non sanctionnée quand on ne le fait pas. la loi n'ayant pas donné de sanctions, ce qui, dans le contexte du moment et de contraintes des collectivités, aurait été assez mal vu que l'État mette des sanctions sur ce sujet. Et puis, il y a, comme l'a dit Bérénice dans son introduction, un débat en cours avec le projet de décret qui doit fixer le seuil. Bel exemple de l'illustration de l'art de faire complexe dans ce pays. On a défini dans la loi que c'est jusqu'à un seuil fixé par décret. Un sénateur, Alain Anziani, qui était rapporteur de la commission des lois à l'Assemblée, avait proposé une lecture simple. On va mettre un chiffre de population. Et selon, il y a eu dans les débats évoqués au Sénat, 30 000, 50 000 ou 70 000 personnes. Finalement, le gouvernement a imposé que ça soit dans le texte de loi adopté, non pas une population, mais un seuil de montant d'achat fixé par décret. Et au moment où il propose, donc, on voit que la loi a obligé à faire un décret, alors que s'il avait mis un seuil de population, la loi était directement applicable. Et au moment où les services du ministère des Finances élaborent le projet de budget, ils mettent un seuil, le projet de décret, ils élaborent, ils mettent un seuil proposé à 100 millions d'euros, ce qui correspond à 250 000 habitants. Trois à quatre fois supérieur à celui qui avait été évoqué dans le débat parlementaire. Donc là, en ce moment, un certain nombre de gens, dont le RTES, sont en train de protester contre ce qui est pour le moins une interprétation abusive de l'esprit du législateur. Le président du groupe d'études à l'Assemblée nationale, Jean-René Marsac, vient d'écrire en disant « Vous ne respectez pas l'esprit du législateur dans le projet de décret, donc on va voir ce que ça donne sur ce sujet. » On voit bien. Les CRES, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, passent à travers la reconnaissance de la loi de ce qu'elles sont aujourd'hui, un regroupement volontaire d'acteurs de l'ESS choisissant de s'organiser à l'échelle régionale, à une structure dont le rôle de regroupement des acteurs est prévu par la loi. Cela a plusieurs conséquences. La première, c'est que les CRES vont devoir adapter leur organisation territoriale à la nouvelle configuration des régions. Dans le cas précédent, elles choisissaient de s'organiser, de rester, si elles le souhaitaient, à une autre échelle. Aujourd'hui, en étant affirmées comme l'interlocuteur des pouvoirs publics, elles doivent s'organiser à l'échelle qui sera définie dès que le débat parlementaire sera terminé et que le Conseil constitutionnel aura trouvé que la procédure était constitutionnelle, ce qui peut encore ouvrir quelques surprises sur le sujet. Mais on voit bien que de ce point de vue, la reconnaissance par la loi qui était très souhaitée par les acteurs a aussi des conséquences lourdes en termes d'organisation. Alors, ces CRES voient la loi leur imposer l'application dans leur statut du principe de parité, qui rejoint une préoccupation assez constante du législateur en ce moment, qui s'applique partout, sauf chez le législateur lui-même. Et leurs missions sont, pour l'essentiel, la reprise des missions existantes aujourd'hui dans le cadre de l'activité des CRES, qui sont relativement hétérogènes, certaines étant beaucoup plus actives, beaucoup plus dynamiques que d'autres, par une conjonction du dynamisme propre des acteurs et du soutien des pouvoirs publics, mais acquiert un rôle juridique extrêmement important, puisque ce sont elles qui tiennent la liste des entreprises de l'ESS et qui ont capacité à ester en justice si elles estiment qu'il y a utilisation abusive de la référence à l'ESS par des entreprises qui n'appliquent pas les principes d'appartenance au secteur qu'on a défini dans l'article 1er. Et vous voyez bien qu'on a aussi un organisme qui change de nature, entre un libre regroupement des acteurs et un organisme chargé de faire respecter, enfin de demander à la justice de faire respecter, mais la loi a bien précisé qu'elles avaient ce rôle, et qu'à travers cela, elles avaient une reconnaissance équivalente à celle d'une structure reconnue d'utilité publique, pour être demandée à ce que la règle d'appartenance au secteur soit reconnue. Donc on va avoir là un élément assez intéressant qui va changer une partie de la logique de fonctionnement d'institutions construites par les acteurs en institutions relais de politiques publiques, dont une de respect de la définition du secteur. Je termine. Il y a donc une convention d'agrément entre l'État, le préfet de région et le président du conseil régional et la CRES, avec cette invention législative de la convention d'agrément, puisque par principe, une convention, c'est un accord entre deux parties égales, alors que l'agrément, c'est une décision souveraine de celui qui agrée. Donc l'invention de la convention d'agrément est un monstre juridique assez curieux sur ce point, dont on va voir comment elle va se mettre en œuvre. C'est en tout cas un sujet d'observation tout à fait passionnant sur ce sujet. Elles ne sont pas devenues des établissements publics à l'instar des autres chambres consulaires, d'une part parce que c'était une institution beaucoup plus forte et beaucoup plus structurée, mais aussi parce qu'on ne savait pas sur quelle base on pouvait établir une forme de contribution au fonctionnement de la CRES. Puisque pour les chambres de commerce, c'est assez simple, c'est sur une taxe parafiscale sur l'impôt sur les sociétés. Il n'y a pas de base commune fiscale dans l'ensemble de l'ESS. Et donc on ne savait pas comment le faire, donc on n'a pas fait. Mais le problème de fonctionnement des CRES pour les missions de service public est durement posé. Leur conseil national est reconnu par la loi et donc il y a bien eu une volonté de faire que ces CRES soient pas seulement des acteurs régionaux mais aussi contribuent à la politique nationale, à côté de l'invention française, l'invention de la loi qui est la chambre française de l'ESS, où on a vu aussi là une invention législative assez curieuse, c'est qu'une association qui n'existait pas a été créée par la loi. Ça fait partie des éléments où nous avons une capacité de législative très étonnante. À côté de cela et de la loi, ben, y a des moyens complexes à mettre en œuvre, avec les moyens de la BPI, les moyens du Fonds d'innovation sociale, mais... Et c'est là un des vrais problèmes, des moyens essentiellement construits dans des logiques d'investissement et qui concernent pour beaucoup les structures les plus importantes capables de réaliser ces programmes d'investissement, qu'aujourd'hui cette question du financement de l'ESS pour des structures plus petites, avec d'ailleurs plus des besoins de fonctionnement que des besoins d'investissement, reste durement posée dans un contexte où, je ne sais pas à vous que je vais l'apprendre, les réductions du budget de l'État et des dotations aux collectivités vont rendre le soutien fait par l'État et les collectivités plus difficile dans les contextes budgétaires des années à venir. Donc il y a là un véritable sujet d'inquiétude. Dernier partie, la mise en application, elle est lente. On voit bien, un décret sur 39 a été pris alors que la loi a maintenant 4 mois. On est dans des délais pas encore inquiétants. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a une totale incohérence entre les principes politiques de la loi et de l'organisation que s'est donné l'État. L'État a mis un ministre à Bercy, mais a gardé les services du quinquennat précédent installés toujours à la délégation de la cohésion sociale. Service modeste, d'une toute petite équipe, mais qui n'est pas placé dans le ministère où ça devrait être. D'ailleurs, les modestes crédits de l'ESS, un peu moins de 5 millions d'euros, en baisse de 5% cette année, ne sont pas dans un budget du ministère de l'économie, mais sont une petite ligne du budget solidarité, insertion et égalité des chances, géré par le ministère de la solidarité, et donc sont à l'évidence mal placé dans la nomenclature budgétaire, Tous les ans, les parlementaires font marquer que c'est mal placé, et tous les ans, il réapparaît au même endroit de la nomenclature budgétaire. C'est partie des éléments où, au-delà de cela, la faiblesse de cette numérique, de cette équipe, fait que ben, le travail de rédaction des décrets, le travail de consultation autour des projets de décret avance lentement, et qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on va sans doute attendre un peu plus longtemps que les décrets, surtout qu'un certain nombre sont des décrets en Conseil d'État, dont on sait que la mécanique est toujours relativement lourde. Tout ça, ça va être à suivre. Vous avez sur ce point une loi, des décrets pas finis, mais il ne faut pas attendre qu'ils soient finis pour avancer, parce que sinon vous pourriez risquer d'attendre longtemps. Vous avez sur ce point aujourd'hui une capacité à utiliser cette loi si vous voulez avancer sur le sujet, et en particulier si vous voulez prendre des initiatives pour participer au soutien au développement de l'ESS à des échelles infrarégionales sur lesquelles, comme la loi dit rien, vous pouvez faire ce que vous voulez.
Ce qui n'est pas interdit.